Bonsoir, nouvelle journée d'action aujourd'hui à la SNCF, la 22e. D'autres sont prévues d'ici un mois, puisque on a l'impression que ça bouge quand même, hein, le gouvernement qui va annoncer la reprise par l'État d'une trentaine de milliards d'euros de la dette abyssale de la SNCF, plus des investissements massifs dans le système ferroviaire. Du côté des négociations, le Premier ministre va recevoir demain vendredi les syndicats un, dont certains syndicats les plus réformistes, eh bien, poussent certains amendements au Sénat pour apporter des garanties aux cheminots dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Alors, est-ce que ça veut dire que le climat s'apaise? Est-ce qu'on voit le bout du conflit? Est-ce que ça sent la sortie de crise? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho. On situe un dossier qu'on a suivi régulièrement donc sur BFM Business, bien sûr, avec nos invités. J'ai voulu, un mois et demi après, quasiment, avec les mêmes intervenants, qu'on voit eh bien, comment la situation a évolué. On est avec Mathias Vichra, qui est le directeur général adjoint du groupe SNCF. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, fils de cheminot, petit-fils de cheminot, on le rappelle. François Micamarty, président de l'Institut Via Voice. Roger Dillensager, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Et puis Philippe Mangeard, président de l'agence de notation de transport Ecablou, spécialiste notamment dans le transport, entre autres, ferroviaire spécialement. Alors, juste avant qu'on voit les questions de reprise de la dette, l'état des négociations, en préambule, sur le plateau, je vous le disais, il y a Mathias Vichra et Roger Dillensager. Vous êtes tous les deux sur un plateau TV. L'impression que c'est une première, je ne sais pas, en période de conflit. Comment ça s'explique, ça? C'est quoi? Ça témoigne d'un changement de climat à vos yeux? Tiens, Mathias Vichra, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur votre présence ce soir avec le représentant de l'UNSA Ferroviaire?
Je ne voudrais pas parler en nos deux noms, mais il y a beaucoup de rencontres, ouais, qui se font ces dernières semaines, ces derniers mois, entre le gouvernement, la direction et les organisations syndicales. Donc ces rencontres-là n'ont rien de neuf. Après, sur le plateau de BFM,
voilà,
Business,
c'est pour ça.
C'est effectivement une nouveauté.
Eh ben voilà, moi je suis très content en effet qu'on puisse vous entendre tous les deux. Roger Dillensager, l'UNSA Ferroviaire.
Merci de nous inviter, de nous donner la parole également. UNSA Ferroviaire, vous l'avez précisé, est un syndicat réformiste avec une politique de pratique, de politique contractuelle. Donc la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est de plus parler.
De ne pas se parler,
donc
voilà.
De se parler officiellement, c'est également, on a également cette capacité, ouais, qu'on assumera.
François Micamarty, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce qu'on peut sentir justement au travers?
D'abord que le dialogue social se fait sur BFM Business. Et ça prouve, je trouve, au-delà de ça, il y a une vraie, vous parliez tout à l'heure des évolutions, je crois qu'il y a une vraie évolution aussi dans la société française de cette concernant ce conflit, hein, la SNCF. On a des choses qui se détendent. Je crois, qu'est-ce qui est très frappant en un mot, hein, dans cette affaire, si on peut dire, savoir que l'opinion publique majoritairement aujourd'hui soutient la réforme, hein, pour 59% d'entre elles. Ce qui est très intéressant, c'est que ce soutien à la réforme repose sur des facteurs un peu différents de ceux de la réforme. C'est-à-dire, au fond, on a une partie des personnes qui soutiennent la réforme qui considèrent que la SNCF, les trains n'arrivent pas toujours à l'heure, que ça coûte un peu trop cher, et donc il faut faire une réforme. Sauf que cette réforme, concernant le statut de la SNCF, concernant le statut des cheminots, ne vise pas prioritairement, voire pas du tout, à régler ces problèmes-là. Donc il y a un peu un décalage, et je crois que le grand paradoxe de la situation actuelle, en un mot, c'est que, d'une certaine manière, le conflit social a amplifié, pour une partie des détracteurs de la réforme, ce sentiment selon lequel la SNCF ne fonctionne pas bien. Mais on a, au fond, une situation très paradoxale, un peu bizarroïde, où le jugement sur la réforme et sur le mouvement social porte sur des arguments qui ne sont pas en réalité le fond de la réforme.
Mathias Vichra, Philippe Mangeard, Emmanuel Lechypre, toujours sur l'état d'esprit en préambule, oui, et puis on reviendra après sur la reprise de la dette. Qu'est-ce que ça signifie?
Trois choses. D'abord, effectivement, un soutien de l'opinion publique à la réforme. Dans le monde de mardi, c'est même 75% des Français qui disent cette réforme nécessaire. Premier point. Deuxième point, cette réforme ne se limite pas à l'extinction du statut. En fait, il y a 5 réformes en une, puisqu'il y a le désendettement, le changement de statut de l'entreprise. Et là, pour le coup, je suis en faux par rapport à ce qui a été dit, concerne aussi la dimension opérationnelle et aussi la ponctualité. Quand vous avez une entreprise qui est délestée d'une partie de sa dette et qui est réorganisée et réunifiée, vous avez des effets opérationnels positifs. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Donc c'est ce que je voulais dire.
Voilà, Philippe Mangeard, Arte Cablou.
Moi, je reviens sur votre première question. Pourquoi sont-ils là tous les deux? Parce qu'il est normal que les vainqueurs viennent. Ils ont gagné. La SNCF a gagné, que ce soit le corpus de management ou le corpus de salariés. C'est la SNCF qui a gagné. Regardez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle obtient, la SNCF, grâce à ce « ouvrez les guillemets conflit » Elle obtient plus de dettes et les sujets importants qui sont les sujets d'amélioration de l'organisation, c'est à plus tard. Elle obtient le fait que les concurrents vont arriver, non pas avec un sac à dos social, expression méconnue, mais trois sacs à dos sociaux. Donc ça veut dire qu'on lance un système concurrentiel avec un faisceau de contraintes énormes qui vont empêcher tout concurrent d'être plus performant.
On va revoir justement au travers des amendements du
troisième point, et puis il y a des points sensibles qui étaient évoqués dans différents rapports concernant les petites lignes, etc. On n'en parle plus du tout. Donc d'une manière générale, la SNCF a gagné, Monsieur Bichra a gagné, Monsieur
Dean Sager.
Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié.
Emmanuel de chez Prin.
Oui, je crois qu'on est rentré dans une nouvelle étape. Je crois qu'on avait vraiment mal commencé la discussion, mal commencé les négociations pour plein de raisons. Je continue à penser que la volonté d'Emmanuel Macron, par orgueil, par fétichisme, de vouloir se payer le statut des cheminots a été une erreur. Je constate d'ailleurs que dans les discussions qui vont commencer sur la réforme de l'État, la première chose qui a été dite, c'est qu'on n'allait pas toucher fondamentalement au statut des fonctionnaires. Donc je pense que ça a été une bonne chose. Je pense que ça a beaucoup blessé les cheminots de considérer que, en gros, ce qu'on faisait croire globalement, c'était que leur statut était responsable des boires de la SNCF, alors que non. Je pense qu'il y a eu après des complications politiques. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir une ministre qui quelque part doit discuter avec des syndicats alors qu'elle a été elle-même la subordonnée de Guillaume Pépi et que maintenant non, elle en est un peu forcément la supérieure hiérarchique. Donc je pense qu'il y a eu ce genre de problème aussi.
C'est pour ça que le dossier a été repris par Édouard Philippe.
Oui, sans doute, enfin repris par Édouard Philippe.
C'est lui qui a reçu
les syndicats. Oui, d'accord.
Il les reçoit
il les a reçus. Moi, je pense qu'on a baladé un peu trop les syndicats quand même. Il y a eu des réunions qui étaient quand même un peu... je me rappelle de certaines réunions avec Madame Borne où pendant des heures, on vous présentait ce que vous saviez déjà. Je me rappelle une fameuse réunion où on vous a fait des tas de PowerPoint pour vous expliquer ce que vous aviez déjà vu en long, en large et en travers. Mais je pense qu'il y a quand même suffisamment d'espace aujourd'hui de négociation avec ce qui doit être fait dans le nouveau pacte d'entreprise, etc. Il y avait des tas de possibilités de négocier.
Et vous dites qu'on aurait pu faire ça plus vite, voilà.
Oui, je pense qu'on a un peu braqué.
On va voir le fond dans un instant. François, la gestion du gouvernement de ce conflit, justement, quel regard sur justement le fait que c'était Madame Borne au départ, puis Édouard Philippe, le gouvernement a suffisamment discuté avec les syndicats, efficacement, justement?
Il y a eu, d'un point de vue d'opinion, hein, un manque de dialogue constructif, si on peut dire. C'est-à-dire, au fond, le sentiment d'un dialogue de sourds. Voilà. Altero a raison, peu importe, mais enfin, le sentiment selon lequel l'idée d'un dialogue social qui aurait pu être constructif n'a pas été abouti. Le deuxième point quand même qui me semble important, c'est que tout n'est pas fini. On a l'air de dire d'une part parce que de fait il y a toujours des mouvements sociaux, et puis d'autre part parce que il peut y avoir des insatisfactions, etc., un certain sentiment d'amertume d'une partie des manifestants ou des grévistes. Et puis aussi des mouvements de grève parcellaires qui peuvent se prolonger. Hein. Alors, souvenons-nous, nous n'y étions pas, mais en 1936, les mouvements sociaux se sont prolongés de manière sporadique jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, il faut pas. Je pense que ce serait une erreur de considérer aujourd'hui que nous sommes à la fin du mois de mai, que même si la plupart des mouvements sociaux peuvent s'arrêter, d'une certaine manière, tout est fini.
On va reparler de l'issue ou pas du conflit. Simplement, l'actualité du jour, hein, c'est le député Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche du département de la Haute-Vienne, qui est le rapporteur sur la loi justement sur cette réforme ferroviaire, qui expliquait, qui annonçait que l'État reprendrait entre 30 et 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF. Dette au total de 55 milliards, 47 milliards pour SNCF Réseau, 8 milliards pour SNCF Mobilité. Que dire du montant, Mathias Vichra? C'est un montant assez lourd, assez conséquent quand même. Alors, 30 à 35 sur 55.
En ce qui concerne le montant, Monsieur Dylan Seger sera mieux renseigné que nous puisqu'il verra le Premier ministre demain. À 8h.
Bien sûr.
Donc je ne peux pas commenter le montant. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un petit peu en profondeur, la dette est passée chez SNCF Réseau de 30 milliards en 2011 à 46 milliards en 2018.
Elle prend 3 milliards à peu près chaque année.
2,5 milliards, dont 1,4 milliard pour les frais financiers.
C'est intérêt, bien sûr.
Donc ça veut dire que désendetter la SNCF, c'est redonner des marges de manœuvre financière extrêmement fortes à l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien savoir, c'est que pourquoi ça a pris un peu de temps pour répondre à la question. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il fallait savoir dans cette dette, dans ces 46 milliards, ce qui relevait d'une dette d'État. Ouais. C'est-à-dire de décisions politiques prises par l'État. Je pense notamment aux lignes LGV, dont on dit qu'elles représentent à peu près la moitié de la somme totale de la dette. La deuxième raison pour laquelle il y a eu un peu de temps, c'est que, évidemment, cette reprise de dette est conditionnée à une forme de perspective financière saine pour l'entreprise, et donc à un plan de productivité, puisque l'État ne veut pas dire « je reprends la dette », et c'est le tonneau des Danaïdes, puisque on vide la dette et la dette reprendra. Juste un point là-dessus, très important, le changement de statut de l'entreprise, c'est un peu technique, d'établissement public industriel et commercial à société nationale à capitaux publics, c'est un point très important sur le désendettement et sur l'endettement, puisque quand vous êtes une société nationale, vous n'avez pas le droit de vous endetter au-delà d'un certain montant. En gros, vos actifs sont là, et vous ne pouvez pas avoir un niveau de dette supérieur à vos actifs. Donc ça veut dire quand même que c'est un élément, ce changement de statut de l'entreprise, d'assainissement financier.
Ça crée une règle d'or.
Ça crée une règle d'or qui est bonne évidemment pour l'entreprise, mais bonne aussi pour le contribuable.
Alors Roger Dinenseger, donc vous verrez demain matin le Premier ministre Édouard Philippe aux aurores, justement, on n'a pas le montant précis, on a, si M. Djebbari le dit, on peut supposer qu'il est dans la bonne échelle, entre 30 et 35 milliards. C'est un élément d'apaisement pour vous, justement ?
Alors, vous le savez, on a travaillé âprement déjà en 2014, sur la réforme de 2014, où déjà en 2014, on demandait un assainissement du financement du système ferroviaire. Bien évidemment, une reprise de la dette à ce montant-là, même si on va considérer très certainement que le compte n'y est pas, devra également être associée à une vision claire de la trajectoire financière du système ferroviaire. En 97 déjà, la SNCF a été débarrassée de sa dette et ça n'a pas solutionné le problème. Si aujourd'hui, si demain, 35 milliards sont repris et en l'occurrence, la charge liée à cet emprunt diminuera dans un premier temps tout à fait mécaniquement, si demain on reconstruit de la dette et on se retrouvera dans cette spirale infernale. Donc pour nous, ce qui sera clair, face à une productivité qui est également demandé aux cheminots de la SNCF, dans un contexte où les chantiers, notamment en Île-de-France, vont croître de manière importante, nous demandera également, et avec fermeté, une vision de la trajectoire financière à long et moyen terme.
Donc vous dites c'est bien, mais il faut que ça s'accompagne justement de davantage d'informations sur la vision de la trajectoire financière.
On peut pas se satisfaire d'une situation financière à un instant T quand on parle d'un chantier d'une industrie lourde comme la SNCF. Il faut qu'on ait une vision à long terme.
Philippe Mangeard, vous spécialiste du ferroviaire, et Mathias Vicherin l'a très très bien dit il y a un instant, une dette qui s'alourdit de 2 milliards et demi à peu près de plus chaque année. Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce que ça va apporter à la SNCF, le fait que l'État reprenne de 30 à 35 milliards d'euros sur cette dette de 55 milliards au total? C'est une grosse enveloppe.
Oui, en langage entrepreneurial, c'est formidable. Ils retrouvent une capacité de financement, une capacité d'investissement importante. Et je l'ai dit dans la dernière émission, le ferroviaire a besoin d'investissements lourds. Qu'on parle des stations d'aiguillage, qu'on parle des moyens matériels du fret, des moyens matériels du voyageur, etc. On a besoin d'une stratégie d'investissement claire, comme l'a dit M. Dinenseger, mais sur une organisation et sur des investissements. Donc c'est très très bien.
Normalement, le Premier ministre aussi va s'exprimer sur l'investissement dans le système ferroviaire. Et toujours, selon M. Djebbari, investissement qui équivaudrait à 1,5 point de PIB qui va concerner le réseau, le fret, les voies, la signalisation. Voilà ce que disait.
Il y a de la productivité à trouver sur des schémas qu'on abordera tout à l'heure de concurrence, mais en interne sur des schémas d'amélioration des investissements et des équipements. Donc aujourd'hui, cette productivité portée par les nouveaux investissements va elle-même apporter sa propre productivité et on peut sortir un business plan. Aujourd'hui, le coût ferroviaire est un coût qui dépend des investissements et des hommes, des matériels et des hommes. Si les matériels performent, les hommes performent avec eux, le coût diminue et le déficit disparaît.
Mathias Vicherin, ouais, DGA de la SNCF.
Ce qu'il faut savoir sur les investissements supplémentaires, c'est qu'il y a déjà eu de signés en fin 2016, et M. Dinenseger le sait puisqu'il y a eu des discussions avec les organisations syndicales, un plan de 46 milliards d'investissements sur le réseau, donc 4,6 milliards par an. C'est plus de deux fois plus que les décennies précédentes. Il y a ce plan qui est inédit. et qui est pour les trains du quotidien. C'est pas pour rénover des lignes TGV. En plus de cela, on n'en connaît pas encore le montant, le Premier ministre demain annoncera des investissements supplémentaires conformément à ce que proposait le rapport Spinetta. Parce que dans le rapport Spinetta, il y avait ce volant d'investissement supplémentaire. Il faut savoir que là, pour le coup, on est totalement sur les questions de ponctualité et les questions d'efficacité opérationnelle, puisque 40% des retards sont liés aujourd'hui à l'état du réseau. Donc quand vous mettez plus d'argent sur la rénovation du réseau, vous avez un système plus robuste et plus de ponctualité pour les trains.
Emmanuel Le Chypre.
Non, puis je crois qu'il faut surtout pas oublier non plus, quand on parle de modernisation des infrastructures, de nouveaux investissements, c'est que il s'agit pas seulement de ça. C'est-à-dire que la SNCF n'échappe pas à ce qui se passe dans le monde et que l'enjeu de la transformation digitale, de l'exploitation du chemin de fer, parce que là on parle pas de commercial, mais il est majeur. Et il faut reconnaître que le travail qui a été fait par la direction de la SNCF depuis une dizaine d'années sur le plan commercial est franchement exceptionnel. Le virage du low cost, le virage de la solution transport plutôt que du train,
toute la chaîne,
les billets, etc. Mais ce que pendant 10 ans, on a plus pensé à vendre, à la façon de vendre le produit qu'au produit lui-même. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur la révolution technologique, il va se passer des choses absolument phénoménales. Quand demain, il faudra plus qu'une grosse dizaine de postes de commandement pour manipuler tous les aiguillages de France. Quand demain, on va passer du contrôle de la circulation. Aujourd'hui, vous savez, la circulation, elle se fait par ce qu'on appelle des systèmes de cantons. C'est-à-dire que le train entre dans des zones, et quand le train est dans une zone, on considère qu'il est dans toute cette zone, etc. Demain, vous aurez...
On voit le fils de cheminot, là.
Ça passionne toujours. Non, mais demain, vous aurez des trains qui seront suivis par GPS directement, de façon beaucoup plus fluide. Mais ça veut dire aussi que vous pourrez faire passer 3, 4, 5 trains de plus le même laps de temps qu'avant. Voilà, que vous aurez peut-être un peu de pilotage automatique et que ça améliorera de quelques pourcents, la ponctualité, etc.
Totalement.
Mais ça, c'est des choses qui se pensent maintenant. Quand vous pensez qu'il y a encore des installations aujourd'hui qui ont été mises en service il y a 40 ans, pensez sur combien de temps nous engage tous les investissements qui vont être faits aujourd'hui. Donc c'est tout ça qu'il faut aussi penser, et tout ça doit être pris en compte dans la façon dont on va définir ce que va être le nouveau métier de cheminot.
Les investissements annoncés par le Premier ministre demain, vous en avez demandé un certain nombre, ils vont porter sur quoi principalement, Mathias Vichra?
Alors ça a été parfaitement dit par mon voisin, il y a deux choses. Il y a à la fois la rénovation du réseau existant. On a un réseau qui est vieillissant, plus de 30 ans, en gros d'ancienneté moyenne, contre 17 en Allemagne. Donc ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose, et c'est là où je vous rejoins totalement, c'est aussi la modernisation du réseau. C'est le réseau haute performance. Et il y a un programme que l'on souhaite développer qui s'appelle le programme ERTMS et qui permet d'avoir plus de fréquences de trains sur une ligne. Par exemple, sur un Paris-Lyon, ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important. On pourra passer de 13 trains par heure à 16 trains par heure. C'est fondamental, parce que avec la concurrence, il y aura des opérateurs supplémentaires. Si on veut que les opérateurs supplémentaires, sur une logique d'open access, c'est-à-dire d'arriver de nouveaux concurrents, puissent opérer, il faut bien qu'il y ait plus de capacité et plus de fréquences. Donc les investissements supplémentaires, c'est à la fois rénover le réseau existant, mais aussi moderniser le réseau pour lui permettre d'avoir plus de fréquences de train.
Moderniser le réseau pour avoir plus de trains, ça va s'accompagner également d'une baisse des droits de péage, justement pour accélérer ce mouvement vers plus de trains. Est-ce que ça aussi c'est vu comme une concession quelque part du gouvernement?
Alors ça, c'est un sujet très important.
Pose la question à vous aussi.
Notamment pour l'opérateur. Il faut savoir que SNCF Réseau se finance en grande partie par les péages.
Oui.
Sauf que le niveau des péages a dépassé ces dernières années de loin le niveau de l'inflation.
D'accord.
Donc le coût des péages a été très important et a rogné la rentabilité de l'opérateur mobilité. Donc effectivement, il y aura des annonces que je ne peux pas vous dévoiler à ce stade, qui seront dévoilées par le Premier ministre et qui consisteront à prendre en compte effectivement la juste évolution du niveau des péages pour que l'opérateur SNCF soit effectivement dans une logique de rentabilité et que le péage ne coûte pas trop cher.
Bonne annonce, bonne nouvelle pour vous, Roger Dillenseger de l'UNSA Ferroviaire. C'est vu comme une concession aussi?
Alors très clairement, l'évolution des péages, et ça, en tant qu'organisation syndicale, on a tous les ans les rapports économiques de l'entreprise qui nous permettent de voir cette inflation très élevée qui réduise le rendement notamment des TGV. Augmenter ou baisser les péages, il faut trouver le bon prix pour le péage.
Ouais.
C'est ça la question.
Ouais.
Et aujourd'hui, et là je reviens peut-être au début de notre débat, les enjeux de cette réforme, les organisations syndicales les partagent. Une meilleure qualité de service, des trains à l'heure, du meilleur confort. Les organisations syndicales, les personnels qu'on représente, on partage. Et je dirais même qu'il est sur ce point un peu inexact d'opposer l'opinion publique par rapport aux cheminots, parce qu'il y a les mêmes enjeux pour tout le monde. Donc voilà, donc clairement, trouver le bon péage sera certainement un gage d'amélioration du système.
Philippe Mangeard.
Le péage est une partie du billet, du prix du billet. Derrière, il y a le reste. Et là, vous arrivez de toute façon dans une économie ferroviaire où il faudra mettre au bout une subvention. Et là, à ce moment-là, le politique, le monsieur Macron ou le monsieur Philippe, va choisir s'il fait payer l'usager ou le contribuable. S'il fait payer l'usager, les prix vont flamber. S'il fait payer le contribuable, le prix va devenir raisonnable. Il s'agit simplement d'une politique volontariste qui dépend du sommet. Avec tous les efforts de productivité de la SNCF, tous les efforts de productivité des cheminots, etc., le prix sera de toute façon incompatible avec le ticket.
Tout juste. Donc, non, mais il y a une illusion qu'il faut quand même essayer de dissiper, mais alors qui n'existe d'ailleurs, je dirais pas qu'en France, mais qui existe en France bien plus qu'ailleurs. C'est cette idée de ce rêve un petit peu du service public d'une extrême qualité à un prix extrêmement modique.
Et totalement rentable.
Et rentable, bien sûr. Ça n'existe nulle part. Ouais. J'aime bien rappeler quand même que les deux meilleurs chemins de fer du monde, voilà, qui sont les chemins de fer suisses et les chemins de fer japonais, qui par ailleurs sont l'un totalement privé et l'autre totalement public. Donc, vous voyez, sur le débat public-privé. Mais quel est le point commun entre ces deux chemins de fer? C'est que c'est aussi les chemins de fer dans lesquels les billets sont les plus chers. Parce qu'il n'y a pas de miracle. On n'en a toujours que pour son argent. Voilà. Et donc, je crois qu'après, les bonnes questions, parce que moi, je suis attaché aussi à la notion de service public, c'est éventuellement, une fois qu'on a des coûts et que les prix doivent refléter les coûts, quelle est la prise en charge après qui équivaut à une espèce de prise en charge un peu sociale peut-être, et là qui peut être inclus dans la solidarité nationale pour que tout le monde puisse voyager.
L'argent public, Emmanuel Chip, juste la reprise de la dette de 30 à 35 milliards. On aura le chiffre demain, bien entendu, de la part du Premier ministre. Hein, évidemment, grosses annonces ce vendredi. La date, elle n'arrive pas par hasard quand même. Le timing. Hier, la Commission européenne proposait de clore la procédure pour déficit excessif ouverte contre la France depuis 2009. Il fallait pas énerver Bruxelles.
Qu'a évoqué Mathias Vichra sur pourquoi c'est aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Le timing.
C'est qu'hier, il y avait
ce clair, bien sûr.
Mais il fallait pas envoyer de signaux.
Il fallait pas énerver Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle peut dire d'ailleurs, la Commission, sur cette reprise de dette? Elle a quelque chose à dire ou pas?
Vous savez que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, avec notre camarade Mathieu Jolivet, on essaye depuis plusieurs jours de savoir exactement de quelle façon va être traitée cette reprise de dette dans les comptes publics. Oui. Et que pour le moment, on a des avis, on entend des choses un peu contradictoires. À Bercy, on nous dit que, en principe, ça ne devrait pas transiter par le déficit, parce que c'est ça l'enjeu pour les finances. C'est que ça ne transite pas par le déficit public. Donc, en gros, on consulte beaucoup d'experts des finances publiques qui nous disent, attendez, de façon comptable, forcément, cette reprise de dette doit transiter par le déficit, ce qui fait un surplus de déficit temporaire. Et puis au Trésor, on nous dit non, mais on est en train de réfléchir pour que ça passe directement dans la dette, etc. Donc on n'est pas encore très au fait sur le sujet, sauf si vous avez
Mathias Vichra,
des éléments supplémentaires.
Non, je confirme.
Bon, très bien. François-Mickey Martin, oui, Via Voice.
Ça signifie quand même qu'il y a trois enjeux majeurs. Il y a l'enjeu de la fin du conflit social. Il y a l'enjeu de la dette, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 38% des Français qui sont favorables au transfert d'une partie de la dette.
Quand on a 2000 milliards de dettes, on peut bien en rajouter.
Oui, non, mais justement, c'est un léger problème, voyez-vous.
Ouais, les niveaux des taux d'intérêt,
c'est un peu sensible. Et puis le troisième enjeu, alors, qui est très intéressant, dont on parle ici, c'est la SNCF d'après, si l'on peut dire. Ouais. C'est-à-dire comment on fait pour avoir, avec une dette réduite, des trains qui fonctionnent un petit peu mieux. Alors, vous parlez là des nouvelles technologies, mais je ne suis pas certain que tout le monde ait ça en tête. Donc, il y a un véritable enjeu qui, au fond, un enjeu en partie de communication, qui permet de comprendre comment on peut avoir, avec une dette réduite, des trains qui fonctionnent un peu mieux au service du grand public. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes majeures là-dessus. On a notamment des inquiétudes très fortes sur la suppression éventuelle des petites lignes, etc. Mais c'est un peu ce que dit Emmanuel Le Chypre ici. Au fond, on a envie d'avoir un service public universel qui nous coûte pas cher, etc. On voit bien qu'on va vers une nouvelle équation.
Les marges de manœuvre, qu'est-ce que cette dette retirée, enfin on verra le calendrier aussi, hein, demain, il va partir 35 milliards d'un coup, vous allez en faire quoi tout de suite? Qu'est-ce que ça va vous donner comme marge de manœuvre instantanément, vous, à la SNCF?
D'abord, la première chose, c'est qu'il y a des contreparties à cette reprise de dette. Et les contreparties, c'est effectivement un plan de performance et de compétitivité améliorer. C'est notamment les frais de structure, la polyvalence des cheminots et d'autres sujets qui permettent d'avoir une meilleure productivité, notamment face aux concurrents. Parce que les concurrents arrivent dans quelques années, donc il faut être plus performant, plus compétitif. Ensuite, effectivement, quand vous avez des investissements supplémentaires et des frais financiers qui diminuent considérablement du fait de la reprise de dette, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choses. D'abord, d'investir sur le réseau en supplément, donc ça c'est effectivement ce qui est fait, et d'investir aussi sur des outils qui vous permettent demain d'être beaucoup plus efficace face à la concurrence. Je donne un exemple. Nous voulons aller vers un assistant personnel de mobilité, c'est-à-dire sur votre smartphone la possibilité d'avoir une logique de transport et non pas seulement de train, adresse à adresse.
La solution qui arrive là est assez spectaculaire.
Voilà. D'ici la fin de l'année, et ça, si on a ça, pour le coup, en termes concurrentiels, c'est la concurrence face à Google. C'est pas la concurrence face à tel ou tel opérateur. Et ça, c'est un élément essentiel. Donc on pourra, avec notamment cette dette en moins et ces investissements supplémentaires, aller vers ces outils développés digitaux notamment, qui nous permettront, face à la concurrence notamment de Google, d'avoir un temps d'avance.
La solution transport, les échos nous disent ce soir que la SNCF va ouvrir le capital de Wicar et de Idévroom, c'est-à-dire deux plateformes de covoiturage. Qu'est-ce qu'il en est ?
Non, alors ça, il y a des réflexions qui sont en cours. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on a développé une logique d'acquisition dans toute une série de sociétés, parce que à un moment, ces différentes solutions se connectent les unes par rapport aux autres. Avoir des solutions de mobilité qui ne se connectent pas, ça a moins de sens. Mais si demain, un client, vous pouvez lui dire, avec une unité de facturation et à partir d'un smartphone, vous voulez d'aller de tel endroit à tel endroit, on vous propose d'abord du VTC, on vous propose du train, on vous propose après du Ouibus ou du Ouicar. Vous avez une solution de mobilité complète, et le fait que la SNCF soit présente dans toutes ces mobilités est un avantage compétitif, comparatif, y compris vis-à-vis des régions qui demain auront à choisir entre la SNCF et d'autres. Parce que si la SNCF vient avec une solution de mobilité panoplie, complète, il y aura un avantage compétitif et comparatif par rapport aux autres opérateurs.
L'ouverture du capital de ces deux... de ces
zones. Je peux pas vous...
Ok, on va se retrouver dans un instant. Est-ce que c'est bientôt la sortie de crise à la SNCF? On va revenir sur ces amendements apaisants reçus par le Sénat, acceptés par le Sénat. Amendements largement inspirés par certains syndicats, CFDT et UNSA. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, est-ce que c'est une semaine charnière, une semaine clé dans le conflit de la SNCF, alors que le Premier ministre va recevoir demain un à un, donc les syndicats, pour annoncer, à quelle hauteur exactement l'État va reprendre la dette de la SNCF? On parle de 30 à 35 milliards. Il va annoncer également toute une série d'investissements, assez lourds d'ailleurs, dans le fret, dans le réseau, dans le matériel. Semaine importante puisqu'on a appris le résultat également de cette fameuse vote-action syndicale. Donc c'était hier, ça s'est terminé hier. 95% des cheminots ayant participé à la vote-action ont dit non à la réforme ferroviaire. La question qui était posée, c'est: êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement? Mathias Vichra, il est avec nous, notamment directeur général adjoint du groupe SNCF. C'est nul et non avenu, entre guillemets, référendum, justement, compte tenu des conditions dans lesquelles ça a été organisé. Vous n'y attachez aucune importance?
Non, toutes les expressions sont respectables.
Oui.
Et celle-ci comme d'autres. Nous, ce que l'on a dit simplement, concernant le résultat et le taux de participation, c'est que les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce vote-action, qui en fait s'apparente en partie à une pétition, ces conditions pouvaient être sujettes à caution, notamment parce qu'il n'y avait pas d'isoloir systématiquement, parce qu'il n'y avait pas d'huissier et de liste d'émargement qui permettait d'avoir la certitude qu'il n'y avait pas plusieurs votes. Donc, à partir du moment où il y avait ces modalités-là, nous avons dit que nous étions un peu sceptiques sur la représentativité et la rigueur des résultats. Après, l'expression qui s'est exprimée, on n'est pas naïf, il y a des craintes, il y a du rejet au sein des cheminots sur cette réforme, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons aussi un volet pacte d'entreprise interne à l'entreprise, avec des sujets de négociation qui ne concernent pas l'État ou le législatif, mais qui concernent la formation, la polyvalence, la nouvelle organisation du travail, puisqu'il faut aussi que l'on travaille sur ces sujets-là, et ça commence dans les jours qui viennent.
Sur le rôle du cheminot aussi en 2018, on va y revenir avec vous, Emmanuel. Juste Roger Dylan Sager, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Vous avez participé ou pas à cette vote action?
Tout à fait, d'ailleurs.
Vous avez voté. Vous avez l'impression que ça représente... le vote, il était régulièrement organisé avec des listes d'émargement, des isoloirs, des urnes protégées la nuit, ou franchement...
Soyons très, très attentifs et très objectifs sur la question. Un vote, c'est un acte démocratique. Un référendum, c'est un sens juridique. Mmh. Et ça n'a pas du tout été ce cas-là. Mmh. Et on n'a pas du tout cherché à faire l'équivalent de ce qui s'est passé à Air France. Mais en l'occurrence, cette démarche, et comme vous me le demandez, je dis oui, j'y ai participé, nous a permis d'échanger avec les cheminots au moment du vote, des rassemblements, des réunions. J'ai participé moi-même à un échange à Dijon la semaine dernière avec 150 cheminots qui étaient là pour une assemblée générale de notre organisation syndicale. Les échanges ont été nourris et c'est justement cette consultation qui a permis également de faire un peu de pédagogie sur cette réforme. Qui nécessite, alors là, je souhaite le souligner à monsieur le directeur de la SNCF, à savoir qu'il faut un accompagnement nécessaire, une pédagogie nécessaire pour mener à bien cette réforme.
Philippe Mangeart, TK Bleu ou Franc.
Un petit trait d'humour, je voudrais bien connaître les noms et prénoms des 5% qui ont voté pour la réforme. Moi, je suis cheminot, on me propose moins bien et pour très bientôt, je suis sur votre nom. Les 5% sont très courageux, quoi.
Bon, on aurait dû avoir une votation, une vote-action à 100%. En tout cas, à la différence d'Air France, où Jean-Marc Janaillard qui a émis en jeu sa place, hein, Guillaume Pépi, apparemment reste. Benjamin Griveaux le disait encore ce matin, la question du maintien de Guillaume Pépi n'est pas posée, alors que certains syndicats comme Sudrail demandaient son débat. Le rôle du cheminot, tiens, en fait, Emmanuel Le Chypre.
Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez sur la pédagogie, c'est-à-dire qu'en gros, pour regarder dans tous les pays qui font des grandes réformes, dans toutes les grandes entreprises qui font des grandes réformes, ce qui compte, c'est de faire la pédagogie auprès des usagers et des salariés. Mmh. Et là, effectivement, il y a une importante pédagogie à faire, parce que la réforme de la SNCF, elle réussira pas si elle embarque pas les cheminots, dans notamment ce défi de leur métier, qui est tout ce qui tourne autour de ce qu'on met au sens large sous la notion de polyvalence, hein, qui effectivement est souvent pointé du doigt aujourd'hui. Le fait qu'il faille, par exemple, deux conducteurs pour emmener un train, il y a des choses comme ça. Et là, on dit, il va falloir que les gens apprennent à faire plus de choses différemment. Moi, j'aimerais savoir, au-delà de la question du statut, c'est quoi les inquiétudes des cheminots par rapport à ça? Et est-ce qu'ils sont pas quand même un peu enthousiastes ou est-ce qu'ils ont pas envie d'avoir des métiers un peu différents, plus
Roger Dillensager, une safe ferroviaire.
Cette polyvalence, ils en ont peur? Ils pensent que c'est une arnaque ou bien est-ce qu'ils pensent qu'il y a des vraies opportunités?
L'exploitation particulière, et vous le savez tous, du ferroviaire a des contraintes particulières, notamment liées à des questions de sécurité. Ouais. Et aujourd'hui, la polyvalence, on peut parler d'un conducteur, qui conduit le train et qui en même temps organise l'essai de frein pour son propre train, on peut considérer qu'il n'y a pas de boucle de rattrapage sur le système. C'est comme...
C'est quoi une boucle de rattrapage?
C'est comme le gendarme qui contrôle sa propre vitesse. Donc ça serait donc c'est un peu en termes de sécurité, pas de boucle de rattrapage, pas de sécurité globale. La polyvalence, on va la mettre sur la table, on va en discuter, mais une polyvalence cadrée. Temporellement, peut-être sur certains métiers, des sujets bien précis qui sont nécessaires également.
Mathias Vichra. D'abord, ce qui va remplacer le statut, pour nous, doit être attractif. On a 330 000 CV par an, on veut rester attractif. Premier point. Deuxième point, la polyvalence, c'est un élément très important. Vous êtes en gare, vous avez un agent, par exemple, qui fait que de la vente. Il pourra pas faire de l'accueil de clients au niveau de l'escale. Il pourra pas non plus faire de l'accompagnement, par exemple, de personnes à mobilité réduite. Demain, la polyvalence, c'est par exemple d'avoir des postes en gare qui sont des postes relations clients, globaux. Ça, c'est vraiment, pour nous, quelque chose de très important. Donc, demain, par ailleurs, la question de la formation au digital est quelque chose d'essentiel, et avoir une prospective métier sur les métiers de demain et les principaux métiers qui vont être amenés à évoluer, c'est fondamental. Quand vous êtes guichetier aujourd'hui, vous avez un métier de relations clients essentiel. Simplement, il n'y a plus que 30% des billets qui sont achetés au guichet. Donc, ce métier, évidemment que l'humain doit pas disparaître, c'est essentiel. Simplement, puisque la part de billets achetés au guichet diminue sensiblement, il faut repenser les métiers, les accompagner, avoir des procédures effectivement de formation, de reconversion, et faire en sorte que nos agents, nos salariés puissent être à même de répondre à ces défis.
Alors, apaisement, suite, on va voir. Hein, en commission au Sénat, le Sénat, les sénateurs qui vont voter donc début juin, à partir du 3 juin, et s'ils votent, eh bien la loi sera complètement adoptée. La réforme, elle a reçu de ce qu'on appelle des modifications, en particulier renforçant les garanties offertes aux salariés en cas de transfert chez de nouveaux opérateurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Il est aussi prévu pendant une période déterminée que les salariés réembauchés au sein de la SNCF bénéficient à nouveau du statut de cheminot, bon, uniquement s'il existe un emploi disponible à SNCF. C'est ce qu'on appelle le droit de retour. Ils ont été inspirés par vous, par la CFDT et par l'UNSA, donc, dont vous êtes le secrétaire général pour le ferroviaire, Roger Dillensager, justement.
Alors, vous le savez, on a été reçu par le Premier ministre le 7 mai.
Oui.
Donc, je pense que jusqu'au 7 mai, vous l'avez évoqué, on a un tout petit peu traîné dans les échanges où on a fait
petit
des échanges
Emmanuel, bien sûr.
Un peu non fructueux, infructueux. Il y a eu un point de rupture le 7 et à partir du 11 mai, on a eu quelques réunions au niveau du ministère qui ont fait avancer le dossier. Et je pense que notre contribution a largement aidé à ce que...
Vous retrouvez un petit peu votre patte là-dedans, dans le droit de retour, ces garanties apportées aux cheminots dans le cadre de l'ouverture à la concurrence?
Alors, pas plus tard que ce soir, j'ai la lettre sous les yeux, Madame la Ministre m'a écrit pour dire qui a été retenu dans le texte. Et voilà, donc effectivement, c'est des sujets importants et satisfaisants également. Voilà, maintenant, le calendrier qui est face à nous, il est très très important. Il y a le passage au Sénat, il y a des dates
importantes. Vol solennel le 5 juin.
Le 5 juin, la commission paritaire un peu plus tard. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que les organisations syndicales devront se poser les vraies questions. Et
vous avez envie de cesser la grève, eu égard à la lettre que vous envoyez Madame Borne, eu égard aux amendements qui ont été acceptés en commission du Sénat, qui ont été inspirés, je le disais par vous, l'UNSA, deuxième syndicat, la CFDT, quatrième syndicat.
C'est pas la fin du chantier aujourd'hui, ni le 12 juin.
J'entends, mais bon.
Ça sera pas la fin du chantier. Le chantier, il va se poursuivre, voire réellement.
Ça sent la fin de crise quand même ou
réellement
pas?
Réellement s'entamer avec la négociation de la convention collective, la négociation de l'agenda social à l'intérieur de la SNCF. Donc un vrai chantier qui se.
Mais ça sent la fin de crise?
Et ça sentira la fin de crise si demain le Premier ministre nous annonce une note d'intention sur des négociations sérieuses sur le chantier qui va s'ouvrir.
Mathias Vichra, merci à l'UNSA, merci à la CFDT, donc qui ont inspiré ces mesures. Ça vous va, ces mesures, justement?
Alors, d'abord, la première chose qu'il faut dire quand même, c'est qu'au départ, on parlait du fait que tout allait être dans les ordonnances,
oui.
C'est-à-dire sans possibilité d'amendement parlementaire. Le domaine de la loi a été élargi, donc la possibilité d'apporter des amendements a été ouvert. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important dans le cadre de la discussion et de la négociation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il reste encore beaucoup de choses. Monsieur Dienzegger l'a dit. Il reste beaucoup de choses. L'agenda social d'entreprise, qui là n'est pas du domaine législatif, mais du domaine de l'entreprise. Il y a des thèmes fondamentaux. La nouvelle organisation du travail, la formation, la polyvalence. Donc d'accord. Il y a plein de sujets encore sur la table. Plein de sujets à voir. Et dans un cadre, effectivement, de négociation, avec un agenda et un calendrier qui doit être discuté avec les organisations syndicales.
François, Mickey, Marty, c'est une semaine importante qui se passe justement pour tenter de mettre fin à ce conflit qui a démarré il y a 6 ou 7 semaines maintenant.
Le 3 avril.
Bien sûr. 3 avril, oui.
Pour le gouvernement, c'est une semaine importante pour les syndicats aussi, d'autant plus qu'il va y avoir les élections professionnelles dans la fonction publique le 6 décembre, au sein de la SNCF à l'automne, avec des rapports de force qui sont quand même intéressants à observer. Donc il y a un enjeu véritable pour les syndicats. Et puis pour les cheminots en particulier, il y a un enjeu sur la transformation d'une entreprise. D'un mot, on a dans les entreprises en général trois types de salariés. Les salariés qui sont attachés à la stabilité, c'est-à-dire au fond je veux faire toute ma vie la même chose. Des salariés qui sont attachés au contraire à la mobilité, à changement, etc. Et puis un troisième tiers qui est attaché à une progression continue, comme celle qu'on connaît dans une grande entreprise où on commence en bas de l'échelle, où on progresse. Ça veut dire, dans le cadre, c'est valable pour toutes les transformations d'entreprise, ça l'a été à la Poste aussi, ça veut dire qu'il y a des discours et une capacité d'adaptation à avoir en fonction aussi des perspectives des cheminots.
Climat, tour de table, climat de confiance rétabli, justement, Philippe Mangeard, on arrive au bout.
On parle d'un système, parlons des territoires, les territoires doivent s'organiser pour accueillir la concurrence. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prendrais simplement l'exemple de Paris, il y a deux établissements, il y a deux autorités publiques qui ont fait des appels d'offres. La RATP a choisi, la SNCF, le STIF à Paris a choisi pour la ligne A, par exemple, la RATP, pour B et C, la SNCF. Qu'est-ce qui se passe? Ben, A marche mieux que B et C. C'est une leçon pour la SNCF qui progresse, et c'est la pertinence d'une autorité nouvelle qui s'appelle RATP pour organiser le trafic ferroviaire en région.
Le conflit, on arrive au bout.
Ah, moi, je pense qu'on arrive au bout, quoi. Bon. Je veux dire, on entend dans les couloirs, on entend partout que ça fonctionne, quoi.
Emmanuel Le Chypre. Hein.
Non, mais ce conflit-là, on arrive au bout, mais ce qu'il faut pas louper, c'est la suite, parce que c'est honnêtement, c'est vraiment depuis 40 ans l'occasion de moderniser une entreprise comme il n'y en aura pas souvent. Donc il ne faut pas la louper.
Allez, le mot de la fin, chacun à Roger Dienzegger, donc de l'UNSA Ferroviaire, qui a accepté de venir avec Mathias Vichra et vice-versa. Allez-y.
Vous le soulignez, UNSA Ferroviaire. Donc aujourd'hui, l'UNSA n'est pas seulement le syndicat des cheminots de la SNCF, mais bien de la branche. Et notre vision à nous, c'est demain, s'il y a de la concurrence, il faut que ça soit de la concurrence entre les entreprises, mais en tant qu'organisation syndicale, pas entre les salariés des entreprises.
Il y aura des trains cet été, il y aura plus de grève cet été?
il y en aura le plus possible et de préférence à l'heure.
Mathias Vichra, cette grève qui démarre, qui a démarré le 3-4 avril, elle vous a coûté combien déjà? Et on arrive au bout ou pas?
Bah, alors, sur le coût, on dit à peu près 300 à 350 millions d'euros pour l'entreprise, sans parler des coûts pour l'ensemble du secteur économique. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une réforme, c'est la réforme.
Oui, oui, oui.
C'est une réforme fondamentale, à la fois parce que ce sera plus de trains, parce que ça permettra à l'entreprise SNCF de tirer son épingle du jeu dans le cadre de la concurrence. Et il faut aussi, dans le cadre du pacte d'entreprise, que l'on montre que c'est aussi dans l'intérêt des cheminots qui, demain, seront plus mobiles, plus de mobilité interne, où il y aura des rémunérations au mérite, et donc, du coup, une logique de fluidité, de souplesse et de performance pour l'avantage de chaque cheminot.
Et vers le 8-10 juin, c'est fini, donc la loi, elle va être votée par les sénateurs.
Je crois qu'aucun de nous n'a de boule de cristal autour de la table. Bon. C'est très difficile, chaque conflit a sa logique propre. Nous espérons effectivement qu'après les annonces du Premier ministre et après le vote au Sénat, la raison puisse l'emporter et que nous puissions arriver à pacte d'entreprise, qui sont aussi des sujets très importants.
Je vous l'avais dit,
sur la formation, etc. Notamment.
Voilà, Mathias Vichra, merci d'être revenu dans les décodeurs de l'écho. Directeur général adjoint de la SNCF. Merci Emmanuel Lechypre. Merci François-Mickey Marty, président fondateur de Via Voice. Roger Dillensager, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Et puis Philippe Mangeard, fondateur de l'agence de notation spécialisée dans l'environnement, dans le transport. TK Blue, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On vient vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.